Dans une maison célèbre par l'éducation aristocratique et religieuse qui s'y donne, au commencement du mois de mars de cette année, un lundi matin, les pensionnaires s'aperçurent leur jolie troupe augmentée d'une nouvelle venue, dont la beauté triompha sans contestation, non seulement de ses compagnes, mais des beautés particulières qui se trouvaient parfaites chez chacune d'elles. En France, il est extrêmement rare, pour ne pas dire impossible, de rencontrer les 30 fameuses perfections décrites en vers persans, sculptées, dit-on, dans le sérail, et qui sont nécessaires à une femme pour être entièrement belle. En France, s'il y a peu d'ensemble, il y a de ravissants détails. Quant à l'ensemble imposant que la statuaire cherche à rendre, et qu'elle a rendu dans quelques compositions rares, comme la Diane et la Callipyge, il est le privilège de la Grèce et de l'Asie mineure. Esther venait de ce berceau du genre humain, la patrie de la beauté. Sa mère était juive. Les juifs, quoique si souvent dégradés par leur contact avec les autres peuples, offrent parmi leurs nombreuses tribus des filons où s'est conservé le type sublime des beautés asiatiques. Quand ils ne sont pas d'une laideur repoussante, il présente le magnifique caractère des figures arméniennes. Esther eut remporté le prix au sérail. Elle possédait les 30 beautés harmonieusement fondues. Loin de porter atteinte au fini de ses formes, à la fraîcheur de l'enveloppe, son étrange vie lui avait communiqué le je ne sais quoi de la femme. Ce n'est plus le tissu lisse et serré des fruits verts, et ce n'est pas encore le ton chaud de la maturité. Il y a de la fleur encore. Quelques jours de plus passés dans la dissolution, elle serait arrivée à l'embonpoint. Cette richesse de santé, cette perfection de l'animal, chez une créature à qui la volupté tenait lieu de pensée, doit être un fait éminent aux yeux des physiologistes. Par une circonstance rare, pour ne pas dire impossible chez les très jeunes filles, ses mains, d'une incomparable noblesse, étaient molles, transparentes et blanches, comme les mains d'une femme en couche de son second enfant. Elle avait exactement le pied et les cheveux, si justement célèbres de la duchesse de Berry. Des cheveux qu'aucune main de coiffeur ne pouvait tenir, tant ils étaient abondants et si longs, qu'en tombant à terre, ils y formaient des anneaux. Car Esther possédait cette moyenne taille qui permet de faire d'une femme une sorte de joujou, de la prendre, quitter, reprendre et porter sans fatigue. Sa peau, fine comme du papier de Chine et d'une chaude couleur d'ambre, nuancée par des veines rouges, était luisante sans sécheresse, douce sans moiteur. Nerveuse à l'excès, mais délicate en apparence, Esther attirait soudain l'attention par un trait remarquable dans les figures, que le dessin de Raphaël a le plus artistement coupé. Car Raphaël est le peintre qui a le plus étudié, le mieux rendu la beauté juive. Ce trait merveilleux était produit par la profondeur de l'arcade sous laquelle l'œil roulait comme dégagé de son cadre et dont la courbe ressemblait par sa netteté à l'arête d'une voûte. Quand la jeunesse revêt de ses teintes pures et diaphanes ce bel arc surmonté de sourcils à racines perdues, quand la lumière, en se glissant dans le sillon circulaire de dessous, y reste d'un rose clair, il y a là des trésors de tendresse à contenter un amant, des beautés à désespérer la peinture. C'est le dernier effort de la nature que ces plis lumineux, où l'ombre prend des teintes dorées, que ce tissu qui a la consistance d'un nerf et la flexibilité de la plus délicate membrane. L'œil au repos est là-dedans, comme un œuf miraculeux dans un nid de brins de soie. Mais plus tard, cette merveille devient d'une horrible mélancolie. Quand les passions ont charbonné ces contours si déliés, quand les douleurs ont ridé ce riseau de fibrilles. L'origine d'Esther se trahissait dans cette coupe orientale de ses yeux à paupières turques, et dont la couleur était d'un gris d'ardoise, qui contractait aux lumières la teinte bleue des ailes noires du corbeau. L'excessive tendresse de son regard pouvait seule en adoucir l'éclat. Il n'y a que les races venues des déserts qui possède dans l'œil le pouvoir de la fascination sur tous. Car une femme fascine toujours quelqu'un. Leurs yeux retiennent sans doute quelque chose de l'infini qu'ils ont contemplé. La nature, dans sa prévoyance, a-t-elle donc armé leurs rétines de quelques tapis réflectants pour leur permettre de soutenir le mirage des sables, les torrents du soleil et l'ardent cobalt de l'éther? Ou les êtres humains prennent-ils, comme les autres, quelque chose au milieu dans lesquels ils se développent et gardent-ils pendant des siècles les qualités qu'ils en tirent? Cette grande solution du problème des races est peut-être dans la question elle-même. Les instincts sont des faits vivants dont la cause gît dans une nécessité subite. Les variétés animales sont le résultat de l'exercice de ces instincts. Pour se convaincre de cette vérité tant cherchée, il suffit d'étendre aux troupeaux d'hommes l'observation récemment faite sur les troupeaux de moutons espagnols et anglais qui, dans les prairies de plaine où l'herbe abonde, paissent serrés les uns contre les autres et se dispersent sur leurs montagnes où l'herbe est rare. Arrachez à leur pays ces deux espèces de moutons. Transportez-les en Suisse ou en France. Le mouton de montagne y paîtra séparé, quoique dans une prairie basse et touffue. Les moutons de plaine y paîtront l'un contre l'autre, quoique sur une alpe. Plusieurs générations réforment à peine les instincts acquis et transmis. À 100 ans de distance, l'esprit de la montagne reparaît dans un agneau réfractaire. Comme après 1800 ans de bannissement, l'Orient brillait dans les yeux et dans la figure d'Esther. Ce regard n'exerçait point de fascination terrible. Il jetait une douce chaleur. Il attendrissait sans étonner. Et les plus dures volontés se fondaient sous sa flamme. Esther avait vaincu la haine. Elle avait étonné les dépravés de Paris. Enfin, ce regard et la douceur de sa peau suave lui avait mérité le surnom terrible qui venait de lui faire prendre sa mesure dans la tombe. Tout chez elle était en harmonie avec ses caractères de la pairie des sables ardents. Elle avait le front ferme et d'un dessin fier. Son nez, comme celui des Arabes, était fin, mince, à narines ovales, bien placées, retroussées sur les bords. Sa bouche, rouge et fraîche, était une rose qu'aucune flétrissure ne déparait. Les orgies n'y avaient point laissé de traces. Le menton, modelé comme si quelque sculpteur amoureux en eût poli le contour, avait la blancheur du lait. Une seule chose, à laquelle elle n'avait pu remédier, trahissait la courtisane tombée trop bas. Ses ongles déchirés, qui voulaient du temps pour reprendre une forme élégante, tant ils avaient été déformés par les soins les plus vulgaires du ménage. Les jeunes pensionnaires commencèrent par jalouser ces miracles de beauté, mais elles finirent par les admirer. La première semaine ne se passa point sans qu'elles se fussent attachées à la naïve Esther, car elles s'intéressèrent au secret malheur d'une fille de 18 ans qui ne savait ni lire ni écrire, à qui toute science, toute instruction était nouvelle, et qui allait procurer à l'archevêque la gloire de la conversion d'une juive au catholicisme, au couvent, la fête de son baptême. Elles lui pardonnèrent sa beauté en se trouvant supérieures à elle par l'éducation. Esther eut bientôt pris les manières, la douceur de voix, le port et les attitudes de ses filles si distinguées. Enfin, elle retrouva sa nature première. Le changement devint si complet qu'à sa première visite, Herrera fut surpris, lui que rien au monde ne paraissait devoir surprendre, et les supérieurs le complimentèrent sur sa pupille. Ces femmes n'avaient jamais, dans leur carrière d'enseignement, rencontré naturel plus aimable, douceur plus chrétienne, modestie plus vraie, ni si grand désir d'apprendre. Lorsqu'une fille a souffert les maux qui avaient accablé la pauvre pensionnaire, et qu'elle attend une récompense comme celle que l'Espagnol offrait à Esther, il est difficile qu'elle ne réalise pas ces miracles des premiers jours de l'Église que les jésuites renouvelèrent au Paraguay. « Elle est édifiante, » dit la supérieure en la baisant au front. Ce mot, essentiellement catholique, dit tout. Pendant les récréations, Esther questionnait avec mesure ses compagnes sur les choses du monde les plus simples, et qui pour elle étaient comme les premiers étonnements de la vie pour un enfant. Quand elle sut qu'elle serait habillée de blanc le jour de son baptême et de sa première communion, qu'elle aurait un bandeau de satin blanc, des rubans blancs, des souliers blancs, des gants blancs, qu'elle serait coiffée de nœuds blancs, elle fondit en larmes au milieu de ses compagnes étonnées. C'était le contraire de la scène de Jephthé sur la montagne. La courtisane eut peur d'être comprise. Elle rejeta cette horrible mélancolie sur la joie que ce spectacle lui causait par avance. Comme il y a certes aussi loin des mœurs qu'elle quittait, aux mœurs qu'elle prenait, qu'il y a de distance entre l'état sauvage et la civilisation, elle avait la grâce et la naïveté, la profondeur qui distingue la merveilleuse héroïne des puritains d'Amérique. Elle avait aussi, sans le savoir elle-même, un amour au cœur qui la rongeait, un amour étrange, un désir plus violent chez elle qui savait tout, qu'il ne l'est chez une vierge qui ne sait rien, quoique ces deux désirs eussent la même cause et la même fin. Pendant les premiers mois, la nouveauté d'une vie recluse, les surprises de l'enseignement, les travaux qu'on lui apprenait, les pratiques de la religion, la ferveur d'une sainte résolution, la douceur des affections qu'elle inspirait. Enfin, l'exercice des facultés de l'intelligence réveillée, tout lui servit à comprimer ses souvenirs, même les efforts de la nouvelle mémoire qu'elle se faisait, car elle avait autant à désapprendre qu'à apprendre. Il existe en nous plusieurs mémoires. Le corps, l'esprit ont chacun la leur. Et la nostalgie, par exemple, est une maladie de la mémoire physique. Pendant le troisième mois, la violence de cette âme vierge qui tendait à pleines ailes vers le paradis fut donc, non pas domptée, mais entravée par une sourde résistance dont la cause était ignorée d'Esther elle-même. Comme les moutons d'Écosse, elle voulait paître à l'écart. Elle ne pouvait vaincre les instincts développés par la débauche. Les rues boueuses du Paris qu'elle avait abjuré la rappelaient-elles? Les chaînes de ses horribles habitudes rompues tenaient-elles à elle par des scellements oubliés? Et les sentaient-elles, comme selon les médecins, les vieux soldats souffrent encore dans les membres qu'ils n'ont plus? Les vices et leurs excès avaient-ils si bien pénétré jusqu'à sa moelle que les os saintes n'atteignaient pas encore le démon caché là? La vue de celui pour qui s'accomplissaient tant d'efforts angéliques était-elle nécessaire à celle à qui Dieu devait pardonner de mêler l'amour humain à l'amour sacré? L'un l'avait conduite à l'autre. Se faisait-il en elle un déplacement de la force vitale et qui entraînait des souffrances nécessaires? Tout est doute et ténèbres dans une situation que la science a dédaigné d'examiner en trouvant le sujet trop immoral et trop compromettant, comme si le médecin et l'écrivain, le prêtre et le politique n'était pas au-dessus du soupçon. Cependant, un médecin arrêté par la mort a eu le courage de commencer des études laissées incomplètes. Peut-être la noire mélancolie à laquelle Esther fut en proie et qui obscurcissait sa vie heureuse participait-elle de toutes ces causes, et incapable de les deviner, peut-être souffrait-elle comme souffrent les malades qui ne connaissent ni la médecine ni la chirurgie. Le fait est bizarre. Une nourriture abondante et saine, substituée à une détestable nourriture inflammatoire, ne sustentait pas Esther. Une vie pure et régulière, partagée en travaux modérés, exprès et en récréation, mise à la place d'une vie désordonnée, où les plaisirs étaient aussi horribles que les peines, cette vie brisait la jeune pensionnaire. Le repos le plus frais, les nuits calmes, qui remplaçait des fatigues écrasantes et les agitations les plus cruelles, donnait une fièvre dont les symptômes échappaient au doigt et à l'œil de l'infirmière. Enfin, le bien, le bonheur succédant au mal et à l'infortune, la sécurité à l'inquiétude, étaient aussi funestes à Esther que ces misères passées l'eussent été à ses jeunes compagnes. Implantée dans la corruption, elle s'y était développée. Sa patrie infernale exerçait encore son empire, malgré les ordres souverains d'une volonté absolue. Ce qu'elle haïssait était pour elle la vie, ce qu'elle aimait la tuer. Elle avait une si ardente foi que sa piété réjouissait l'âme. Elle aimait à prier. Elle avait ouvert son âme aux clartés de la vraie religion, qu'elle recevait sans effort, sans doute. Le prêtre qui la dirigeait était dans le ravissement, mais chez elle, le corps contrariait l'âme à tout moment. On prit des carpes à un étang bourbeux pour les mettre dans un bassin de marbre et dans de belles eaux claires, afin de satisfaire un désir de Madame de Maintenon, qui les nourrissait des bribes de la table royale. Les carpes dépérissaient. Les animaux peuvent être dévoués, mais l'homme ne leur communiquera jamais la lèpre de la flatterie. Un courtisan remarqua cette muette opposition dans Versailles. « Elles sont comme moi, » répliqua cette reine inédite. « Elles regrettent leurs vases obscurs. » Ce mot est toute l'histoire d'Esther. Par moments, la pauvre fille était poussée à courir dans les magnifiques jardins du couvent. Elle allait affairée d'arbre en arbre. Elle se jetait désespérément aux coins obscurs, en y cherchant. Quoi ? Elle ne le savait pas. Mais elle succombait aux démons. Elle coquetait avec les arbres. Elle leur disait des paroles qu'elle ne prononçait point. Elle se coulait parfois le long des murs, le soir, comme une couleuvre, sans châle, les épaules nues. Souvent à la chapelle, durant les offices, elle restait les yeux fixés sur le crucifix. Et chacun l'admirait, les larmes la gagnaient. Mais elle pleurait de rage. Au lieu des images sacrées qu'elle voulait voir, les nuits flamboyantes où elle conduisait l'orgie, comme à Breck conduit au conservatoire une symphonie de Beethoven. Ces nuits rieuses et lascives, coupées de mouvements nerveux, de rires inextinguibles, se dressaient échevelées, furieuses, brutales. Elle était au dehors, suave comme une vierge qui ne tient à la terre que par sa forme féminine. Au dedans, s'agitait une impériale messaline. Elle seule était dans le secret de ce combat du démon contre l'ange. Quand la supérieure la grondait d'être plus artistement coiffée que la règle ne le voulait, elle changeait sa coiffure avec une adorable et prompte obéissance. Elle était prête à couper ses cheveux, si sa mère le lui eût ordonné. Cette nostalgie avait une grâce touchante dans une fille qui aimait mieux périr que de retourner aux péris impurs. Elle pâlit, changea, maigrit. La supérieure modéra l'enseignement et prit cette intéressante créature auprès d'elle pour la questionner. Esther était heureuse. Elle se plaisait infiniment avec ses compagnes. Elle ne se sentait attaquée en aucune partie vitale. Mais sa vitalité était essentiellement attaquée. Elle ne regrettait rien. Elle ne désirait rien. La supérieure, étonnée des réponses de sa pensionnaire, ne savait que penser en la voyant en proie à une langueur dévorante. Le médecin fut appelé lorsque l'état de la jeune pensionnaire parut grave. Mais ce médecin ignorait la vie antérieure d'Esther et ne pouvait la soupçonner. Il trouva la vie partout. La souffrance n'était nulle part. La malade répondit à renverser toutes les hypothèses. Restait une manière d'éclaircir les doutes du savant qui s'attachait à une affreuse idée. Esther refusa très obstinément de se prêter à l'examen du médecin. La supérieure en appela dans ce danger à l'abbé Herrera. L'Espagnol vint, vit l'état désespéré d'Esther et causa pendant un moment à l'écart avec le docteur. Après cette confidence, l'homme de science déclara à l'homme de foi que le seul remède était un voyage en Italie. L'abbé ne voulut pas que ce voyage se fît avant le baptême et la première communion d'Esther. « Combien faut-il de temps encore ?» demanda le médecin. « Un mois, » répondit la supérieure. « Elle sera morte, » répliqua le docteur. « Oui, mais en état de grâce et sauvée, » dit l'abbé. La question religieuse domine en Espagne les questions politiques, civiles et vitales. Le médecin ne répliqua donc rien à l'Espagnol. Il se tourna vers la supérieure, mais le terrible abbé lui prit alors le bras pour l'arrêter. « Pas un mot, monsieur, » dit-il. Le médecin, quoique religieux et monarchique, jeta sur Esther un regard plein de pitié tendre. Cette fille était belle, comme un lys penché sur sa tige. À la grâce de Dieu, donc, s'écria-t-il en sortant. Le jour même de cette consultation, Esther fut emmenée par son protecteur au rocher de Cancale, car le désir de la sauver avait suggéré les plus étranges expédients à ce prêtre. Il essaya de deux excès. Un excellent dîner, qui pouvait rappeler à la pauvre fille ses orgies, l'opéra qui lui présenterait quelques images mondaines. Il fallut son écrasante autorité pour décider la jeune sainte à de telles profanations. Herrera se déguisa si complètement en militaire qu'Esther eut peine à le reconnaître. Il eut soin de faire prendre un voile à sa compagne et la plaça dans une loge où elle put être cachée au regard. Ce palliatif, sans danger pour une innocence si sérieusement reconquise, fut promptement épuisé. La pensionnaire éprouva du dégoût pour les dîners de son protecteur, une répugnance religieuse pour le théâtre, et retomba dans sa mélancolie. Elle meurt d'amour pour Lucien, se dit Herrera, qui voulut sonder la profondeur de cette âme et savoir tout ce qu'on en pouvait exiger. Il vint donc un moment où cette pauvre fille n'était plus soutenue que par sa force morale et où le corps allait céder. Le prêtre calcula ce moment avec l'affreuse sagacité pratique apportée autrefois par les bourreaux dans leur art de donner la question. Il trouva sa pupille au jardin, assise sur un banc, le long d'une treille que caressait le soleil d'avril. Elle paraissait avoir froid et s'y réchauffer. Ses camarades regardaient avec intérêt sa pâleur d'herbe flétrie, ses yeux de gazelle mourante, sa pose mélancolique. Esther se leva pour aller au-devant de l'Espagnol, par un mouvement qui montra combien elle avait peu de vie, et disons-le, peu de goût pour la vie. Cette pauvre bohémienne, cette fauve hirondelle blessée, excita pour la seconde fois la pitié de Carlos Herrera. Ce sombre ministre, que Dieu ne devait employer qu'à l'accomplissement de ses vengeances, accueillit la malade par un sourire qui exprimait autant d'amertume que de douceur, autant de vengeance que de charité. Instruite à la méditation, à des retours sur elle-même depuis sa vie quasi monastique, Esther éprouva pour la seconde fois un sentiment de défiance à la vue de son protecteur. Mais comme à la première, elle fut aussitôt rassurée par sa parole. « Eh bien, ma chère enfant, disait-il, pourquoi ne m'avez-vous jamais parlé de Lucien ?»« Je vous avais promis, répondit-elle en tressaillant de la tête aux pieds par un mouvement convulsif. Je vous avais juré de ne point prononcer ce nom. Vous n'avez cependant pas cessé de penser à lui. Là, monsieur, est ma seule faute. À toute heure, je pense à lui, et quand vous vous êtes montré, je me disais à moi-même ce nom. L'absence vous tue. » Pour toute réponse, Esther inclina la tête à la manière des malades qui sentent déjà l'air de la tombe. « Le revoir, dit-il. Ce serait vivre, répondit-elle. Pensez-vous à lui d'âme seulement ? Ah, monsieur, l'amour ne se partage point. Fille de la race maudite, j'ai fait tout pour te sauver. Je te rends à ta destinée. Tu le reverras. Pourquoi donc injuriez-vous mon bonheur ? Ne puis-je aimer Lucien et pratiquer la vertu, que j'aime autant que je l'aime ? Ne suis-je pas prête à mourir ici pour elle, comme je serais prête à mourir pour lui ? Ne vais-je pas expirer par ces deux fanatismes, pour la vertu qui me rendait digne de lui, pour lui qui m'a jetée dans les bras de la vertu ? Oui, prête à mourir sans le revoir, prête à vivre en le revoyant. Dieu me jugera. » Ses couleurs étaient revenues. Sa pâleur avait pris une teinte dorée. Esther eut encore une fois sa grâce. Le lendemain du jour où vous vous serez lavé dans les eaux du baptême, vous reverrez Lucien. Et si vous croyez pouvoir vivre vertueuse en vivant pour lui, vous ne vous séparerez plus. Le prêtre fut obligé de relever Esther, dont les genoux avaient plié. La pauvre fille était tombée comme si la terre eût manqué sous ses pieds. L'abbé l'assit sur le banc, Et quand elle retrouva la parole, elle lui dit « Pourquoi pas aujourd'hui ? Voulez-vous dérober à mon Seigneur le triomphe de votre baptême et de votre conversion ? Vous êtes trop près de Lucien pour n'être pas loin de Dieu. » Oui, je ne pensais plus à rien. Vous ne serez jamais d'aucune religion, dit le prêtre avec un mouvement de profonde ironie. Dieu est bon, reprit-elle. Il lit dans mon cœur. Vaincue par la délicieuse naïveté qui éclatait dans la voix, le regard, les gestes et l'attitude d'Esther, Herrera l'embrassa sur le front pour la première fois. Les libertins t'avaient bien nommé. Tu séduiras Dieu le Père. Encore quelques jours, il le faut. Et après, vous serez libres tous deux. Tous deux, répéta-t-elle avec une joie extatique. Cette scène, vue à distance, frappa les pensionnaires et les supérieurs, qui crurent avoir assisté à quelque opération magique, en comparant Esther à elle-même. L'enfant toute changée vivait. Elle reparut dans sa vraie nature d'amour, gentille, coquette, agaçante, gaie. Enfin, elle ressuscita. Herrera demeurait rue Cassette, près de Saint-Sulpice, église à laquelle il s'était attaché. Cette église, d'un style dur et sec, allait à cet Espagnol, dont la religion tenait de celle des Dominicains. Enfant perdu de la politique astucieuse de Ferdinand VII, il desservait la cause constitutionnelle, en sachant que ce dévouement ne pourrait jamais être récompensé qu'au rétablissement du rey Neto. Et Carlos Herrera s'était donné corps et âme à la Camarilla, au moment où les Cortés ne paraissaient pas devoir être renversés. Pour le monde, cette conduite annonçait une âme supérieure. L'expédition du duc d'Angoulême avait eu lieu, le roi Ferdinand régnait, et Carlos Herrera n'allait pas réclamer le prix de ses services à Madrid. Défendu contre la curiosité par un silence diplomatique, il donna pour cause de son séjour à Paris sa vive affection pour Lucien de Rubempré, et à laquelle ce jeune homme devait déjà l'ordonnance du roi relative à son changement de nom. Herrera vivait d'ailleurs, comme vivent traditionnellement les prêtres employés à des missions secrètes, fort obscurément. Il accomplissait ses devoirs religieux à Saint-Sulpice, ne sortait que pour affaires, toujours le soir et en voiture. La journée était remplie pour lui par la sieste espagnole, qui place le sommeil entre les deux repas, et prend ainsi tout le temps pendant lequel Paris est tumultueux et affairé. Le cigare espagnol jouait aussi son rôle, et consumait autant de temps que de tabac. La paresse est un masque aussi bien que la gravité, qui est encore de la paresse. Herrera demeurait dans une aile de la maison, au second étage, et Lucien occupait l'autre aile. Ces deux appartements étaient à la fois séparés et réunis par un grand appartement de réception, dont la magnificence antique convenait également au grave ecclésiastique et au jeune poète. La cour de cette maison était sombre. De grands arbres touffus ombrageaient le jardin. Le silence et la discrétion se rencontre dans les habitations choisies par les prêtres. Le logement d'Herrera sera décrit en deux mots, une cellule. Celui de Lucien, brillant de luxe et muni des recherches du confort, réunissait tout ce qu'exige la vie élégante d'un dandy, poète, écrivain, ambitieux, vicieux, à la fois orgueilleux et vaniteux, plein de négligence et souhaitant l'ordre. Un de ces génies incomplets, qui ont quelque puissance pour désirer, pour concevoir, ce qui est peut-être la même chose, mais qui n'ont aucune force pour exécuter. À eux deux, Lucien et Herrera formaient un politique. Là, sans doute, était le secret de cette union. Les vieillards, chez qui l'action de la vie s'est déplacée et s'est transportée dans la sphère des intérêts, sentent souvent le besoin d'une jolie machine, d'un acteur jeune et passionné pour accomplir leurs projets. Richelieu chercha trop tard une belle et blanche figure à moustache pour la jeter aux femmes qu'il devait amuser. Incompris par de jeunes étourdis, il fut obligé de bannir la mère de son maître et d'épouvanter la reine, après avoir essayé de se faire aimer de l'une et de l'autre, sans être de taille à plaire à des reines. Quoi qu'on fasse, il faut toujours, dans une vie ambitieuse, se heurter contre une femme, au moment où l'on s'attend le moins à pareille rencontre. Quelque puissant que soit un grand politique, il lui faut une femme à opposer à la femme, de même que les Hollandais usent le diamant par le diamant. Rome, au moment de sa puissance, obéissait à cette nécessité. Voyez aussi comment la vie de Mazarin, cardinal italien, fut autrement dominatrice que celle de Richelieu, cardinal français. Richelieu trouve une opposition chez les grands seigneurs. Il y met la hache. Il meurt à la fleur de son pouvoir, usé par ce duel où il n'avait qu'un capucin pour second. Mazarin est repoussé par la bourgeoisie et par la noblesse réunies, armées, parfois victorieuses, et qui font fuir la royauté. Mais le serviteur d'Anne d'Autriche n'ôte la tête à personne, sait vaincre la France entière et forme Louis XIV, qui acheva l'œuvre de Richelieu en étranglant la noblesse avec des lacets dorés dans le grand sérail de Versailles. Madame de Pompadour morte, Choiseul est perdu. Herrera s'était-il pénétré de ses hautes doctrines? S'était-il rendu justice à lui-même plutôt que ne l'avait fait Richelieu? Avait-il choisi dans Lucien un 5 mars, mais un 5 mars fidèle? Personne ne pouvait répondre à ces questions, ni mesurer l'ambition de cet Espagnol, comme on ne pouvait prévoir quelle serait sa fin. Ces questions, faites par ceux qui purent jeter un regard sur cette union, pendant longtemps secrète, tendaient à percer un mystère horrible que Lucien ne connaissait que depuis quelques jours. Carlos était ambitieux pour deux. Voilà ce que sa conduite démontrait aux personnages qui le connaissaient et qui tous croyaient que Lucien était l'enfant naturel de ce prêtre. 15 mois après son apparition à l'opéra, qui le jeta trop tôt dans un monde où l'abbé ne voulait le voir qu'au moment où il aurait achevé de l'armée contre le monde, Lucien avait 3 beaux chevaux dans son écurie, un coupé pour le soir, un cabriolet et un tilbury pour le matin. Il mangeait en ville. Les prévisions d'Herrera s'étaient réalisées. La dissipation s'était emparée de son élève. Mais il avait jugé nécessaire de faire diversion à l'amour insensé que ce jeune homme gardait au cœur pour Esther. Après avoir dépensé 40 000 francs environ, chaque folie avait ramené Lucien plus vivement à la torpille. Il la cherchait avec obstination, et ne la trouvant pas, elle devenait pour lui ce qu'est le gibier pour le chasseur. Herrera pouvait-il connaître la nature de l'amour d'un poète? Une fois que ce sentiment a gagné chez un de ces grands petits hommes la tête, comme il a embrasé le cœur et pénétré les sens, ce poète devient aussi supérieur à l'humanité par l'amour qu'il l'est par la puissance de sa fantaisie. Devant à un caprice de la génération intellectuelle la faculté rare d'exprimer la nature par des images où il emprunte à la fois le sentiment et l'idée, il donne à son amour les ailes de son esprit. Il sent et il peint, il agite et médite, il multiplie ses sensations par la pensée, il triple la félicité présente par l'aspiration de l'avenir et par les souvenances du passé. Il y mêle les exquises jouissances d'âme qui le rendent le prince des artistes. La passion d'un poète devient alors un grand poème où souvent les proportions humaines sont dépassées. Le poète ne met-il pas alors sa maîtresse beaucoup plus haut que les femmes ne veulent être logées? Il change, comme le sublime chevalier de la Manche, une fille des champs en princesse. Il use pour lui-même de la baguette avec laquelle il touche toute chose pour la faire merveilleuse. Et il grandit ainsi les voluptés par l'adorable monde de l'idéal. Aussi, cet amour est-il un modèle de passion? Il est excessif en tout, dans ses espérances, dans ses désespoirs, dans ses colères, dans ses mélancolies, dans ses joies. Il vole, il bondit, il rampe. Il ne ressemble à aucune des agitations qu'éprouve le commun des hommes. Il est à l'amour bourgeois, ce qu'est l'éternel torrent des Alpes au ruisseau des plaines. Ces beaux génies sont si rarement compris qu'ils se dépensent en faux espoirs. Ils se consument à la recherche de leurs idéales maîtresses. Ils meurent presque toujours, comme de beaux insectes parés à plaisir pour les fêtes de l'amour, par la plus poétique des natures, et qui sont écrasés vierges sous le pied d'un passant. Mais autre danger, lorsqu'ils rencontrent la forme qui répond à leur esprit, et qui souvent est une boulangère, ils font comme Raphaël, ils font comme le bel insecte, ils meurent auprès de la fornarina. Lucien en était là. Sa nature poétique, nécessairement extrême en tout, en bien comme en mal, avait deviné l'ange dans la fille, plutôt frottée de corruption que corrompue. Il la voyait toujours blanche, ailée, pure et mystérieuse, comme elle s'était faite pour lui, devinant qu'il la voulait ainsi. Vers la fin du mois de mai 1825, Lucien avait perdu toute sa vivacité. Il ne sortait plus, dînait avec Herrera, demeurait pensif, travaillait, lisait la collection des traités diplomatiques, restait assis à la turque sur un divan et fumait 3 ou 4 oukas par jour. Son groom était plus occupé à nettoyer les tuyaux de ce bel instrument et à les parfumer qu'à lisser le poil des chevaux et à les harnacher de roses pour les courses au bois. Le jour où l'Espagnol vit le front de Lucien pâli, où il aperçut les traces de la maladie dans les folies de l'amour comprimé, il voulut aller au fond de ce cœur d'homme sur lequel il avait assis sa vie. Par une belle soirée, où Lucien, assis dans un fauteuil, contemplait machinalement le coucher du soleil à travers les arbres du jardin, en y jetant le voile de sa fumée de parfum par des souffles égaux et prolongés, comme font les fumeurs préoccupés, il fut tiré de sa rêverie par un profond soupir. Il se retourna et vit l'abbé debout, les bras croisés. « Tu étais là ?» dit le poète. « Depuis longtemps, » répondit le prêtre. « Mes pensées ont suivi l'étendue d'Étienne. » Lucien comprit ce mot. « Je ne me suis jamais donné pour une nature de bronze comme est la tienne. La vie est pour moi, tout à tour, un paradis et un enfer. » Mais quand par hasard, elle n'est ni l'un ni l'autre, elle m'ennuie et je m'ennuie. Comment peut-on s'ennuyer quand on a tant de magnifiques espérances devant soi? Quand on ne croit pas à ces espérances, ou quand elles sont trop voilées. Pas de bêtises, dit le prêtre. Il est bien plus digne de toi et de moi de m'ouvrir ton cœur. Il y a entre nous ce qu'il ne devait jamais y avoir, un secret. Ce secret dure depuis 16 mois. Tu aimes une femme. Après, une fille immonde, nommée la Torpille. Eh bien, mon enfant, je t'avais permis de prendre une maîtresse, mais une femme de la cour, jeune, belle, influente, au moins comtesse. Je t'avais choisi Madame d'Espard, afin d'en faire sans scrupule un instrument de fortune, car elle ne t'aurait jamais perverti le cœur. Elle te l'aurait laissé libre. Aimer une prostituée de la dernière espèce, quand on n'a pas comme les rois le pouvoir de l'anoblir, est une faute énorme. Suis-je le premier qui renonçait à l'ambition pour suivre la pente d'un amour effréné? Bon, fit le prêtre, en ramassant le bocchettino du hoca que Lucien avait laissé tomber par terre et le lui tendant. Je comprends l'épigramme. Ne peut-on réunir l'ambition et l'amour? Enfant, tu as dans le vieil Herrera une mère dont le dévouement est absolu. Je le sais, mon vieux, dit Lucien en lui prenant la main et la lui secouant. Tu as voulu les joujoux de la richesse, tu les as. Tu veux briller, je te dirige dans la voie du pouvoir. Je baisse des mains bien sales pour te faire avancer, et tu avanceras. Encore quelque temps, il ne te manquera rien de ce qui plaît aux hommes et aux femmes. Efféminé par tes caprices, tu es viril par ton esprit. J'ai tout conçu de toi. Je te pardonne tout. Tu n'as qu'à parler pour satisfaire tes passions d'un jour. J'ai agrandi ta vie en y mettant ce qui l'a fait adorer par le plus grand nombre, le cachet de la politique et de la domination. Tu seras aussi grand que tu es petit. Mais il ne faut pas briser le balancier avec lequel nous battons monnaie. Je te permets tout, moi les fautes qui tueraient ton avenir. quand je t'ouvre les salons du faubourg Saint-Germain, je te défends de te vautrer dans les ruisseaux. Lucien, je serai comme une barre de fer dans ton intérêt. Je souffrirai tout de toi, pour toi. Ainsi donc, j'ai converti ton manque de touche au jeu de la vie en une finesse de joueur habile. Lucien leva la tête par un mouvement d'une brusquerie furieuse. J'ai enlevé la torpille. Toi ! S'écria Lucien. Dans un accès de rage animale, le poète se leva, jeta le bocchinetto d'or et de pierreries à la face du prêtre, qu'il poussa assez violemment pour renverser cet athlète. Moi, dit l'Espagnol, en se relevant et en gardant sa gravité terrible. La perruque noire était tombée. Un crâne poli comme une tête de mort rendit à cet homme sa vraie physionomie. Elle était épouvantable. Lucien resta sur son divan, les bras pendants, accablé, regardant l'abbé d'un air stupide. « Je l'ai enlevé, » reprit le prêtre. « Qu'en as-tu fait ? Tu l'as enlevé le lendemain du bal masqué. » « Oui, le lendemain du jour où j'ai vu insulter un être qui t'appartenait par des drôles à qui je ne voudrais pas donner mon pied dans. »« Des drôles, » dit Lucien en l'interrompant. « Dis des monstres, auprès de qui ceux que l'on guillotine sont des anges. Sais-tu ce que la pauvre torpille a fait pour trois d'entre eux? Il y en a un qui a été pendant 2 mois son amant. Elle était pauvre et cherchait son pain dans le ruisseau. Lui n'avait pas le sou. Il était comme moi, quand tu m'as rencontré, bien près de la rivière. Mon gars se relevait la nuit. Il allait à l'armoire où étaient les restes du dîner de cette fille. » Et il les mangeait. Elle a fini par découvrir ce manège. Elle a compris cette honte. Elle a eu soin de laisser beaucoup de restes. Elle était bien heureuse. Elle n'a dit cela qu'à moi, dans son fiacre, au retour de l'opéra. Le second avait volé. Mais avant qu'on ne pût s'apercevoir du vol, elle a pu lui prêter la somme qu'il a pu restituer et qu'il a toujours oublié de rendre à cette pauvre enfant. Quant au troisième, elle a fait sa fortune en jouant une comédie où éclate le génie de Figaro. Elle a passé pour sa femme et s'est faite la maîtresse d'un homme tout-puissant qui la croyait la plus candide des bourgeoises. À l'un la vie, à l'autre l'honneur, au dernier la fortune. Qui est aujourd'hui tout cela? Et voilà comment elle a été récompensée par eux. Veux-tu qu'il meure? Dit Herrera qui avait une larme dans les yeux. « Allons, te voilà bien, je te connais. »« Non, apprends tout, poète rageur, » dit le prêtre. « La torpille n'existe plus. » Lucien s'élança sur Herrera, si vigoureusement pour le prendre à la gorge, que tout autre homme eût été renversé. Mais le bras de l'Espagnol maintint le poète. « Écoute donc, » dit-il froidement. « J'en ai fait une femme chaste, pure, bien élevée, religieuse. » Une femme comme il faut. Elle est dans le chemin de l'instruction. Elle peut, elle doit devenir, sous l'empire de ton amour, une Ninon, une Marion de l'Orme, une Dubarry, comme le disait ce journaliste à l'opéra. Tu la voueras pour ta maîtresse, ou tu resteras derrière le rideau de ta création, ce qui sera plus sage. L'un ou l'autre parti t'apportera profit et orgueil, plaisir et progrès. Mais si tu es aussi grand politique que grand poète, Esther ne sera qu'une fille pour toi, car plus tard, elle nous tirera peut-être d'affaires, elle vaut son pesant d'or. Bois, mais ne te grise pas. Si je n'avais pas pris les rênes de ta passion, où en serais-tu aujourd'hui? Tu aurais roulé avec la torpille dans la fange des misères d'où je t'ai tiré. Tiens, lis, dit Herrera, aussi simplement que Talma dans Manlius, qu'il n'avait jamais vu. Un papier tomba sur les genoux du poète et le tira de l'extatique surprise où l'avait plongé cette terrifiante réponse. Il le prit et lut la première lettre écrite par Mademoiselle Esther. « À Monsieur l'abbé Carlos Herrera, mon cher protecteur, ne croirez-vous pas que chez moi la reconnaissance passe avant l'amour ? En voyant que c'est à vous rendre grâce que j'emploie pour la première fois la faculté d'exprimer mes pensées, au lieu de la consacrer à peindre un amour que Lucien a peut-être oublié. Mais je vous dirai à vous, homme divin, ce que je n'oserais lui dire à lui, qui pour mon bonheur tient encore à la terre. La cérémonie d'hier a versé les trésors de la grâce en moi. Je remets donc ma destinée en vos mains. Dussé-je mourir en restant loin de mon bien-aimé, je mourrai purifiée comme la Madeleine, et mon âme deviendra pour lui la rivale de son ange gardien. Oublierai-je jamais la fête d'hier? Comment vouloir abdiquer le trône glorieux où je suis montée? Hier, j'ai lavé toutes mes souillures dans l'eau du baptême, et j'ai reçu le corps sacré de notre Sauveur. Je suis devenue l'un de ses tabernacles. En ce moment, j'ai entendu les chants des anges. Je n'étais plus une femme, je naissais à une vie de lumière, au milieu des acclamations de la terre, admirée par le monde, dans un nuage d'encens et de prières qui enivrait et paraît comme une vierge pour un époux céleste. En me trouvant, ce que je n'espérais jamais, digne de Lucien, j'ai abjuré tout amour impur et ne veux pas marcher dans d'autres voies que celles de la vertu. Si mon corps est plus faible que mon âme, qu'il périsse. Soyez l'arbitre de ma destinée. Et si je meurs, dites à Lucien que je suis morte pour lui, en naissant à Dieu, ce dimanche soir. Lucien leva sur l'abbé ses yeux mouillés de larmes. Tu connais l'appartement de la grosse Caroline Bellefeuille, rue Thébault, reprit l'Espagnol. Cette fille, abandonnée par son magistrat, était dans un effroyable besoin, elle allait être saisie. J'ai fait acheter son domicile en bloc, elle en est sortie avec ses nippes. Esther, cet ange qui voulait monter au ciel, qui est descendu, et t'attend. En ce moment, Lucien entendit dans la cour ses chevaux qui piaffaient. Il n'eut pas la force d'exprimer son admiration pour un dévouement que lui seul pouvait apprécier. Il se jeta dans les bras de l'homme qui l'avait outragé. Répara tout par un seul regard et par la muette effusion de ses sentiments. Puis il franchit les escaliers, jeta l'adresse d'Esther à l'oreille de son tigre, et les chevaux partirent, comme si la passion de leur maître eût animé leurs jambes. Le lendemain, un homme qu'à son habillement les passants pouvaient prendre pour un gendarme déguisé se promenait rue Thébault en face d'une maison, comme s'il attendait la sortie de quelqu'un. Son pas était celui des hommes agités. Vous rencontrerez souvent dans Paris de ces promeneurs passionnés, vrais gendarmes qui guettent un garde national réfractaire, des recors qui prennent leurs mesures pour une arrestation, des créanciers méditant une avanie à leurs débiteurs qui s'éclatent murés, des amants ou des maris jaloux et soupçonneux, des amis en faction pour le compte d'amis. Mais vous rencontrerez bien rarement une face éclairée par les sauvages et rudes pensées qui animait celle du sombre athlète, allant et venant sous les fenêtres de Mademoiselle Esther, avec la précipitation songeuse d'un ours en cage. À midi, une croisée s'ouvrit pour laisser passer la main d'une femme de chambre qui en poussa les volets rembourrés de coussins. Quelques instants après, Esther en déshabillé vint respirer l'air. Elle s'appuyait sur Lucien. Qui les eût vus, les aurait pris pour l'original d'une suave vignette anglaise. Esther aperçut tout d'abord les yeux de basilic du prêtre espagnol, et la pauvre créature, atteinte comme d'une balle, jeta un cri d'effroi. « Voilà le terrible prêtre » dit-elle en le montrant à Lucien. « Lui, » dit-il en souriant, « il n'est pas plus prêtre que toi. Qu'est-il donc alors ?» dit-elle effrayée. « Eh, c'est un vieux lascar qui ne croit qu'au diable, » dit Lucien. Saisi par un être moins dévoué qu'Esther, cette lueur jetée sur les secrets du faux prêtre aurait pu perdre à jamais Lucien. En allant de la fenêtre de leur chambre à coucher, dans la salle à manger, où leur déjeuner venait d'être servi, les deux amants rencontrèrent Carlos Herrera. « Que viens-tu faire ici ?» lui dit brusquement Lucien. « Vous bénir, » répondit cet audacieux personnage, en arrêtant le couple et en le forçant à rester dans le petit salon de l'appartement. « Écoutez-moi, mes amours. Amusez-vous, soyez heureux. C'est très bien. Le bonheur à tout prix, voilà ma doctrine. Mais toi, dit-il à Esther, toi que j'ai tiré de la boue et que j'ai savonné à mes corps, tu n'as pas la prétention de te mettre en travers sur le chemin de Lucien. Quant à toi, mon petit, reprit-il après une pause en regardant Lucien, tu n'es plus assez poète pour te laisser aller à une nouvelle Coralie. Nous faisons de la prose. Que peut devenir l'amant d'Esther? Rien. Esther peut-elle être Madame de Rubempré? Non. Eh bien, le monde, ma petite, dit-il en mettant sa main sur celle d'Esther, qui frissonna comme si quelque serpent l'eût enveloppée. Le monde doit ignorer que vous vivez. Le monde doit surtout ignorer qu'une mademoiselle Esther aime Lucien et que Lucien a été pris d'elle. Cet appartement sera votre prison, ma petite. Si vous voulez sortir, et votre santé l'exigera, vous vous promènerez pendant la nuit, aux heures où vous ne pourrez point être vue, car votre beauté, votre jeunesse et la distinction que vous avez acquise au couvent seraient trop promptement remarquées dans Paris. Le jour où qui que ce soit au monde, dit-il avec un terrible accent, accompagné d'un plus terrible regard, saurait que Lucien est votre amant, ou que vous êtes sa maîtresse, ce jour serait l'avant-dernier de vos jours. On a obtenu à ce cadet-là une ordonnance qui lui a permis de porter le nom et les armes de ses ancêtres maternels. Mais ce n'est pas tout. Le titre de marquis ne nous a pas été rendu. Et pour le reprendre, il doit épouser une fille de bonne maison, en faveur de qui le roi nous fera cette grâce. Cette alliance mettra Lucien dans le monde de la cour. Cet enfant, de qui j'ai su faire un homme, deviendra d'abord secrétaire d'ambassade. Plus tard, il sera ministre dans quelque petite cour d'Allemagne. Et Dieu, ou moi, ce qui vaut mieux, aidant, il ira s'asseoir quelque jour sur les bancs de la pairie. Ou sur les bancs, dit Lucien en interrompant cet homme. Tais-toi, s'écria Carlos, en couvrant avec sa large main la bouche de Lucien. Un pareil secret à une femme, lui souffla-t-il dans l'oreille. Esther, une femme, s'écria l'auteur des marguerites. Encore des sonnets, dit l'Espagnol, ou des sornettes. Tous ces anges-là redeviennent femmes, tôt ou tard. Or la femme a toujours des moments où elle est à la fois singe et enfant, deux êtres qui nous tuent en voulant rire. Esther, mon bijou, dit-il à la jeune pensionnaire épouvantée, je vous ai trouvé pour femme de chambre une créature qui m'appartient comme si elle était ma fille. Vous aurez pour cuisinière une mulâtresse, ce qui donne un fier ton à une maison. Avec Europe et Asie, vous pourrez vivre ici pour un billet de 1 000 francs par mois, tout compris, comme une reine de théâtre. Europe a été couturière, modiste et comparse. Asie a servi un milord gourmand. Ces deux créatures seront pour vous comme deux fées. En voyant Lucien, très petit garçon devant cet être, coupable au moins d'un sacrilège et d'un faux, cette femme, sacrée par son amour, sentit alors au fond de son cœur une terreur profonde. Sans répondre, elle entraîna Lucien dans la chambre, où elle lui dit « Est-ce le diable ? C'est bien pis pour moi, » reprit-il vivement. « Mais si tu m'aimes, tâche d'imiter le dévouement de cet homme et obéis-lui sous peine de mort. »« De mort ! » dit-elle encore plus effrayée. « De mort !» répéta Lucien. « Hélas, ma petite biche, aucune mort ne saurait se comparer à celle qui m'atteindrait si... » Esther pâlit en entendant ces paroles et se sentit défaillir. « Eh bien !» leur cria le faussaire sacrilège. « Vous n'avez donc pas encore effeuillé toutes vos marguerites ?» Esther et Lucien reparurent, et la pauvre fille dit, sans oser regarder l'homme mystérieux, « Vous serez obéi comme on obéit à Dieu, monsieur. »« Bien, répondit-il, vous pourrez être pendant quelque temps très heureuse, et vous n'aurez que des toilettes de chambre et de nuit à faire. Ce sera très économique. » Et les deux amants se dirigèrent vers la salle à manger. Mais le protecteur de Lucien fit un geste pour arrêter le joli couple, qui s'arrêta. Je viens de vous parler de vos gens, mon enfant, dit-il à Esther. Je dois vous les présenter. L'espagnol sonna deux fois. Les deux femmes qu'il nommait Europe et Asie apparurent, et il fut alors facile de voir la cause de ces surnoms. Asie, qui paraissait être née à l'île de Java, offrait au regard pour l'épouvanter ce visage cuivré particulier au Malais, plat comme une planche, et où le nez semble avoir été rentré par une compression violente. L'étrange disposition de ses os maxillaires donnait au bas de cette figure une ressemblance avec la face des singes de la grande espèce. Le front, quoique déprimé, ne manquait pas d'une intelligence produite par l'habitude de la ruse. Deux petits yeux ardents conservaient le calme de ceux des tigres, mais ils ne regardaient point en face. Asie semblait avoir peur d'épouvanter son monde. Les lèvres d'un bleu pâle laissaient passer des dents d'une blancheur éblouissante, mais entrecroisées. L'expression générale de cette physionomie animale était la lâcheté. Les cheveux, luisants et gras, comme la peau du visage, bordaient de deux bandes noires un foulard très riche. Les oreilles, excessivement jolies, avaient de grosses perles brunes pour ornement. Petite, courte, ramassée, Asie ressemblait à ces créations falotes que se permettent les Chinois sur leurs écrans. Plus exactement, à ces idoles hindoues dont le type ne paraît pas devoir exister, mais que les voyageurs finissent par trouver. En voyant ce monstre, paré d'un tablier blanc sur une robe de stoff, Esther eut le frisson. « Asie, » dit l'Espagnol, vers qui cette femme leva la tête par un mouvement qui n'est comparable qu'à celui d'un chien regardant son maître. « Voilà votre maîtresse. » Et il montra du doigt Esther en peignoir. Asie regarda cette jeune fée avec une expression quasi douloureuse. Mais en même temps, une lueur étouffée entre ses petits cils pressés partit comme la flammèche d'un incendie sur Lucien, qui, vêtu d'une magnifique robe de chambre ouverte, d'une chemise en toile de frise et d'un pantalon rouge, un bonnet turc sur sa tête, d'où ses cheveux blonds sortaient en grosses boucles, offrait une image divine. Le génie italien peut inventer de raconter Othello, le génie anglais peut le mettre en scène, mais la nature seule a le droit d'être dans un seul regard, plus magnifique et plus complète que l'Angleterre et l'Italie dans l'expression de la jalousie. Ce regard, surpris par Esther, lui fit saisir l'Espagnol par le bras et y imprimer ses ongles, comme eût fait un chat qui se retient pour ne pas tomber dans un précipice où il ne voit pas de fond. L'Espagnol dit alors trois ou quatre mots d'une langue inconnue à ce monstre asiatique, qui vint s'agenouiller en rampant aux pieds d'Esther et les lui baisa. « C'est, dit l'Espagnol à Esther, non pas une cuisinière, mais un cuisinier qui rendrait Carême fou de jalousie. Asie sait tout faire en cuisine. Elle vous accommodera un simple plat de haricots, à vous mettre en doute si les anges ne sont pas descendus pour y ajouter des herbes du ciel. Elle ira tous les matins à la halle, elle-même, et se battra comme un démon qu'elle est, afin d'avoir les choses au plus juste prix. Elle lassera les curieux par sa discrétion. Comme vous passerez pour être allé aux Indes, Asie vous aidera beaucoup à rendre cette fable possible, car c'est une de ces Parisiennes qui naissent pour être du pays d'où elles veulent être. Mais mon avis n'est pas que vous soyez étrangère. Europe, qu'en dis-tu ? Europe formait un contraste parfait avec Asie, car elle était la soubrette la plus gentille que jamais Montrose eût pu souhaiter pour adversaire sur le théâtre. Svelte, en apparence étourdie, au minois de belette, le nez en vrille, Europe offrait à l'observation une figure fatiguée par les corruptions parisiennes, la blafarde figure d'une fille nourrie de pommes crues, lymphatique et fibreuse, molle et tenace. Son petit pied en avant, les mains dans les poches de son tablier, elle frétillait tout en restant immobile, tant elle avait d'animation. À la fois grisette et figurante, elle devait, malgré sa jeunesse, avoir déjà fait bien des métiers. Perverse, comme toutes les madelonnettes ensemble, elle pouvait avoir volé ses parents et frôler les bancs de la police correctionnelle. Asie inspirait une grande épouvante, mais on la connaissait tout entière en un moment. Elle descendait en ligne droite de locuste. Tandis qu'Europe inspirait une inquiétude qui ne pouvait que grandir à mesure qu'on se servait d'elle. Sa corruption semblait ne pas avoir de bornes. Elle devait, comme dit le peuple, savoir faire battre des montagnes. « Madame pourrait être de Valenciennes, » dit Europe d'un petit ton sec. « J'en suis. » « Monsieur, » dit-elle à Lucien d'un air pédant, « veut-il nous apprendre le nom qu'il compte donner à madame ?»« Madame Van Bogseck, » répondit l'Espagnol, en retournant aussitôt le nom d'Esther. « Madame est une juive originaire de Hollande, veuve d'un négociant, et malade d'une maladie de foie rapportée de Java. Pas grande fortune, afin de ne pas exciter la curiosité. De quoi vivre, 6 000 francs de rente, et nous nous plaindrons de ces lésineries, » dit Europe. « C'est cela, » fit l'Espagnol en inclinant la tête. « Satanée farceuse, » reprit-il d'un son de voix terrible, en surprenant en Asie et en Europe des regards qui lui déplurent. « Vous savez ce que je vous ai dit. Vous servez une reine. Vous lui devez le respect qu'on doit à une reine. Vous la soignerez comme vous soigneriez une vengeance. Vous lui serez dévouée autant qu'à moi. Ni le portier, ni les voisins, ni les locataires. Enfin, personne au monde ne doit savoir ce qui se passe ici. C'est à vous à déjouer toutes les curiosités, s'il s'en éveille. Et madame, ajouta-t-il en mettant sa large main velue sur le bras d'Esther, madame ne doit pas commettre la plus légère imprudence. Vous l'en empêcheriez au besoin, mais toujours respectueusement. Europe, c'est vous qui serez en relation avec le dehors pour la toilette de madame, et vous y travaillerez afin d'aller à l'économie. Enfin, que personne, pas même les gens les plus insignifiants, ne mette les pieds dans l'appartement. À vous deux, il faut savoir tout y faire. Ma petite belle, dit-il à Esther, quand vous voudrez sortir le soir en voiture, vous le direz à Europe. Elle sait où aller chercher vos gens, car vous aurez un chasseur, et de ma façon, comme ces deux esclaves. Esther et Lucien ne trouvaient pas un mot à dire. Ils écoutaient l'Espagnol et regardaient les deux sujets précieux auxquels ils donnaient des ordres. À quel secret devait-il la soumission, le dévouement écrit sur ces deux visages, l'un si méchamment mutin, l'autre si profondément cruel? Il devina les pensées d'Esther et de Lucien, qui paraissaient engourdis, comme l'eussent été Paul et Virginie à l'aspect de deux horribles serpents. Et il leur dit de sa bonne voix à l'oreille, « Vous pouvez compter sur elle, comme sur moi-même. N'ayez aucun secret pour elle, ça les flattera. « Va servir, ma petite Asie, » dit-il à la cuisinière. « Et toi, ma mignonne, mets un couvert, » dit-il à Europe. « C'est bien le moins que ces enfants donnent à déjeuner à papa. » Quand les deux femmes eurent fermé la porte et que l'Espagnol entendit Europe allant et venant, il dit à Lucien et à la jeune fille, en ouvrant sa large main, « Je les tiens. » Mot et geste qui faisait frémir. « Où donc les as-tu trouvés ?» s'écria Lucien. « Et parbleu, répondit cet homme, je ne les ai pas cherchés au pied des trônes. Europe sort de la boue et a peur d'y rentrer. Menacez-les de monsieur l'abbé quand elles ne vous satisferont pas, et vous les verrez tremblant comme des souris à qui l'on parle d'un chat. Je suis un dompteur de bêtes féroces, ajouta-t-il en souriant. Vous me faites l'effet du démon, s'écria gracieusement Esther, en se serrant contre Lucien. « Mon enfant, j'ai tenté de vous donner au ciel, mais la fille repentie sera toujours une mystification pour l'Église. S'il s'en trouvait une, elle redeviendrait courtisane dans le paradis. Vous y avez gagné de vous faire oublier et de ressembler à une femme comme il faut, car vous avez appris là-bas ce que vous n'auriez jamais pu savoir dans la sphère infâme où vous viviez. Vous ne me devez rien, fit-il en voyant une délicieuse expression de reconnaissance sur la figure d'Esther. « J'ai tout fait pour lui. » Et il montra Lucien. « Vous êtes fille, vous resterez fille, vous mourrez fille. Car malgré les séduisantes théories des éleveurs de bêtes, on ne peut devenir ici-bas que ce qu'on est. L'homme au boss a raison. Vous avez la bosse de l'amour. L'Espagnol était, comme on le voit, fataliste, ainsi que Napoléon, Mahomet et beaucoup de grands politiques. Chose étrange, presque tous les hommes d'action inclinent à la fatalité, de même que la plupart des penseurs inclinent à la providence. « Je ne sais pas ce que je suis, » répondit Esther avec une douceur d'ange, « mais j'aime Lucien, et je mourrai l'adorant. » « Venez déjeuner, » dit brusquement l'Espagnol, « et priez Dieu que Lucien ne se marie pas promptement, car alors vous ne le reverriez plus. Son mariage serait ma mort, » dit-elle. Elle laissa passer ce faux prêtre le premier, afin de pouvoir se hausser jusqu'à l'oreille de Lucien, sans être vue. « Est-ce ta volonté, » dit-elle, « que je reste sous la puissance de cet homme qui me fait garder par ses deux hyènes ?» Lucien inclina la tête. La pauvre fille réprima sa tristesse et parut joyeuse, mais elle fut horriblement oppressée. Il fallut plus d'un an de soins constants et dévoués pour qu'elle s'habituât à ces deux terribles créatures que Carlos Herrera nommait les deux chiens de garde. La conduite de Lucien, depuis son retour à Paris, fut marquée au coin d'une politique si profonde qu'il devait exciter et qu'il excita la jalousie de tous ses anciens amis, envers lesquels il n'exerça pas d'autre vengeance que de les faire enrager par ses succès, par sa tenue irréprochable et par sa façon de laisser les gens à distance. Ce poète, si communicatif, si expansif, devint froid et réservé. De Marsay, ce type adopté par la jeunesse parisienne, n'apportait pas dans ses discours ou dans ses actions plus de mesure que n'en avait Lucien. Quant à de l'esprit, le journaliste avait fait ses preuves. De Marsay, à qui bien des gens opposaient Lucien avec complaisance en donnant la préférence au poète, eut la petitesse de s'en taquiner. Lucien, très en faveur auprès des hommes qui exerçaient secrètement le pouvoir, abandonna si bien toute pensée de gloire littéraire qu'il fut insensible au succès de son roman, republié sous son vrai titre de l'Archer de Charles IX, et au bruit que fit son recueil de sonnets intitulé Les Marguerites, vendu par Doria en une seule semaine. « C'est un succès posthume, » répondit-il en riant à Mademoiselle des Touches qui le complimentait. Le terrible Espagnol maintenait sa créature avec un bras de fer, dans la ligne au bout de laquelle les fanfares et les profits de la victoire attendent les politiques patients. Lucien avait pris l'appartement de garçon de Beaudenord, sur le quai Malaquais, afin de se rapprocher de la rue Thébault, et son conseil s'était logé dans trois chambres de la même maison, au quatrième étage. Lucien n'avait plus qu'un cheval de selle et deux cabriolets, un domestique et un palefrenier. Quand il ne dînait pas en ville, il dînait chez Esther. Carlos Herrera surveillait si bien les gens au quai Malaquais que Lucien ne dépensait pas en tout 10 000 francs par an. 10 000 francs suffisaient à Esther, grâce au dévouement constant, inexplicable, d'Europe et d'Asie. Lucien employait d'ailleurs les plus grandes précautions pour aller rue Thébault ou pour en sortir. Il n'y venait jamais qu'en fiacre, les stores baissés, et faisait toujours entrer la voiture. Aussi, sa passion pour Esther et l'existence du ménage de la rue Thébault, entièrement inconnue dans le monde, ne nuisirent-elles à aucune de ses entreprises ou de ses relations. Jamais un mot indiscret ne lui échappa sur ce sujet délicat. Ses fautes en ce genre avec Coralie, lors de son premier séjour à Paris, lui avaient donné de l'expérience. Sa vie offrit d'abord cette régularité de bon ton sous laquelle on peut cacher bien des mystères. Il restait dans le monde tous les soirs jusqu'à 1 h du matin. On le trouvait chez lui de 10 h à 1 h de l'après-midi. Puis il allait au bois de Boulogne et faisait des visites jusqu'à 5 h. On le voyait rarement à pied. Il évitait ainsi ses anciennes connaissances. Quand il fut salué par quelque journaliste ou par quelqu'un de ses anciens camarades, il répondit d'abord par une inclination de tête assez polie pour qu'il fût impossible de se fâcher. mais où perçait un dédain profond qui tuait la familiarité française. Il se débarrassa promptement ainsi des gens qu'il ne voulait plus avoir connus. Une vieille haine l'empêchait d'aller voir Madame d'Espard, qui plusieurs fois avait voulu la voir chez elle. S'il la rencontrait chez la duchesse de Maufrigneuse ou chez Mademoiselle des Touches, chez la comtesse de Montcornet ou ailleurs, il se montrait d'une exquise politesse avec elle. Cette haine, égale chez Madame d'Espard, obligeait Lucien à user de prudence, car on verra comment il l'avait avivée, en se permettant une vengeance qui, d'ailleurs, lui valut une forte semonce de Carlos Herrera. « Tu n'es pas encore assez puissant pour te venger de qui que ce soit, » lui avait dit l'Espagnol. « Quand on est en route par un ardent soleil, on ne s'arrête pas pour cueillir la plus belle fleur. » Il y avait trop d'avenir et trop de supériorité vraie chez Lucien pour que les jeunes gens, que son retour à Paris et sa fortune inexplicable, offusqués ou froissés, ne fussent pas enchantés de lui jouer un mauvais tour. Lucien, qui se savait beaucoup d'ennemis, n'ignorait pas ses mauvaises dispositions chez ses amis. Aussi, l'abbé mettait-il admirablement son fils adoptif en garde contre les traîtrises du monde, contre les imprudences si fatales à la jeunesse. Lucien devait raconter et raconter tous les soirs à l'abbé les plus petits événements de la journée. Grâce au conseil de ce mentor, il déjouait la curiosité la plus habile, celle du monde. Gardé par un sérieux anglais, fortifié par les redoutes qu'élève la circonspection des diplomates, il ne laissait à personne le droit ou l'occasion de jeter l'œil sur ses affaires. Sa jeune et belle figure avait fini par être, dans le monde, impassible, comme une figure de princesse en cérémonie. Vers le milieu de l'année 1829, il fut question de son mariage avec la fille aînée de la duchesse de Grandlieu, qui n'avait pas alors moins de 4 filles à établir. Personne ne mettait en doute que le roi ne fît à propos de cette alliance la faveur de rendre à Lucien le titre de marquis. Ce mariage allait décider la fortune politique de Lucien, qui probablement serait nommé ministre auprès d'une cour d'Allemagne. Depuis 3 ans surtout, la vie de Lucien avait été d'une sagesse inattaquable. Aussi de Marsay avait-il dit de lui ce mot singulier. Ce garçon doit avoir derrière lui quelqu'un de bien fort. Lucien était ainsi devenu presque un personnage. Sa passion pour Esther l'avait d'ailleurs aidé beaucoup à jouer son rôle d'homme grave. Une habitude de ce genre garantit les ambitieux de bien des sottises. En ne tenant à aucune femme, il ne se laisse pas prendre aux réactions du physique sur le moral. Quant au bonheur dont jouissait Lucien, c'était la réalisation des rêves de poète sans le sou, à jeun, dans un grenier. Esther, l'idéal de la courtisane amoureuse, tout en rappelant à Lucien Coralie, l'actrice avec laquelle il avait vécu pendant une année, l'effaçait complètement. Toutes les femmes aimantes et dévouées inventent la réclusion, l'incognito, la vie de la perle au fond de la mer. Mais chez la plupart d'entre elles, c'est un de ces charmants caprices qui font un sujet de conversation, une preuve d'amour qu'elles rêvent de donner et qu'elles ne donnent pas. Tandis qu'Esther, toujours au lendemain de sa première félicité, vivant à toute heure sous le premier regard incendiaire de Lucien, n'eut pas, en 4 ans, un mouvement de curiosité. Son esprit tout entier, elle l'employait à rester dans les termes du programme, tracé par la main fatale de l'Espagnol. Bien plus, au milieu des plus enivrantes délices, elle n'abusa pas du pouvoir illimité que prêtent aux femmes aimées les désirs renaissants d'un amant pour faire à Lucien une interrogation sur Herrera, qui d'ailleurs l'épouvantait toujours. Elle n'osait pas penser à lui. Les savants bienfaits de ce personnage inexplicable, à qui certainement Esther devait, et sa grâce de pensionnaire, et ses façons de femme comme il faut, et sa régénération, semblaient à la pauvre fille être des avances de l'enfer. « Je paierai tout cela quelques jours », se disait-elle avec effroi. Pendant toutes les belles nuits, elle sortait en voiture de louage. Elle allait avec une célérité sans doute imposée par l'abbé, dans un de ces charmants bois qui sont autour de Paris, à Boulogne, Vincennes, Romainville ou Ville d'Avray, souvent avec Lucien, quelquefois seule avec Europe. Elle s'y promenait sans avoir peur, car elle était accompagnée, quand elle se trouvait sans Lucien, par un grand chasseur, vêtu comme les chasseurs les plus élégants, armé d'un frais couteau, et dont la physionomie, autant que la sèche musculature, annonçait un terrible athlète. Cet autre gardien était pourvu, selon la mode anglaise, d'une canne appelée bâton de longueur, que connaissent les bâtonnistes, et avec laquelle ils peuvent défier plusieurs assaillants. En conformité d'un ordre donné par l'abbé, jamais Esther n'avait dit un mot à ce chasseur. Europe, quand madame voulait revenir, jetait un cri. Le chasseur sifflait le cocher, qui se trouvait toujours à une distance convenable. Lorsque Lucien se promenait avec Esther, Europe et le chasseur restaient à 100 pas d'eux, comme deux de ces pages infernaux dont parlent les mille et une nuits, et qu'un enchanteur donne à ses protégés. Les Parisiens, et surtout les Parisiennes, ignorent les charmes d'une promenade au milieu des bois par une belle nuit. Le silence, les effets de la lune, la solitude ont l'action calmante des bains. Ordinairement, Esther partait à 10 heures, se promenait de minuit à 1 heure et rentrait à 2h30. Il ne faisait jamais jour chez elle avant 11 heures. Elle se baignait, procédait à cette toilette minutieuse, ignorée de la plupart des femmes de Paris, car elle veut trop de temps, et ne se pratique guère que chez les courtisanes, les lorettes ou les grandes dames qui toutes ont leur journée à elles. Elle n'était que prête quand Lucien venait, et s'offrait toujours à ses regards comme une fleur nouvellement éclose. Elle n'avait de soucis que du bonheur de son poète. Elle était à lui comme une chose à lui, c'est-à-dire qu'elle lui laissait la plus entière liberté. Jamais elle ne jetait un regard au-delà de la sphère où elle rayonnait. L'abbé le lui avait bien recommandé, car il entrait dans les plans de ce profond politique que Lucien eut de bonne fortune. Le bonheur n'a pas d'histoire, et les conteurs de tous les pays l'ont si bien compris que cette phrase « ils furent heureux » termine toutes les aventures d'amour. Aussi ne peut-on qu'expliquer les moyens de ce bonheur vraiment fantastique au milieu de Paris. Ce fut le bonheur sous sa plus belle forme, un poème, une symphonie de 4 ans. Toutes les femmes diront « c'est beaucoup ». Ni Esther ni Lucien n'avaient dit « c'est trop ». Enfin, la formule « ils furent heureux » fut pour eux encore plus explicite que dans les contes de fées, car ils n'eurent pas d'enfants. Ainsi, Lucien pouvait coqueter dans le monde, s'abandonner à ses caprices de poète, et disons le mot, aux nécessités de sa position. Il rendit, pendant le temps où il faisait lentement son chemin, des services secrets à quelques hommes politiques, en coopérant à leurs travaux. Il fut en ceci d'une grande discrétion. Il cultiva beaucoup la société de madame de Sérisy, avec laquelle il était, au dire des salons, du dernier bien. Madame de Sérisy avait enlevé Lucien à la duchesse de Maufrigneuse, qui, dit-on, n'y tenait plus. Un de ces mots par lequel les femmes se vengent d'un bonheur envié. Lucien était, pour ainsi dire, dans le giron de la grande aumônerie et dans l'intimité de quelques femmes amies de l'archevêque de Paris. Modeste et discret, il attendait avec patience. Aussi le mot de Marsay, qui s'était alors marié, et qui faisait mener à sa femme la vie que menait Esther, contenait-il plus qu'une observation. Mais les dangers sous-marins de la position de Lucien s'expliqueront assez dans le courant de l'histoire.